Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTM 33, Emmanuel avec vous dans Mille et une vies. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pascal Bataille. Bonjour Pascal.
Bonjour Emmanuel, merci de votre invitation.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. On va commencer peut-être par vous présenter, et la liste est longue au niveau de vos activités. Vous êtes donc producteur, animateur radio, producteur de théâtre également, marchand de biens et restaurateur. Ça fait quand même beaucoup de qualificatifs, tout ça, beaucoup d'occupations.
Hôtelier plus que restaurateur, je dis ça pas pour vous corriger, mais parce qu'en fait c'est important à deux niveaux. D'abord parce que l'hôtellerie est plus quelque chose qui m'attire que la restauration, et en plus la restauration est un métier très difficile et très compliqué pour lequel j'ai le plus grand respect et à peu près aucune compétence.
Alors vous faites partie aussi du paysage audiovisuel qui ne vous connaît pas, disons. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette émission-là en particulier? Comment ça s'est passé finalement?
Alors en fait, c'est le résultat d'un parcours assez long dans l'audiovisuel. J'ai fait avec Laurent Fontaine d'ailleurs la plus grande partie de ma carrière télévisuelle avec lui, et on a fait ensemble beaucoup d'émissions différentes. Et puis cette dernière émission, Il n'y a que la vérité qui compte, qu'on a créée en 2002 sur TF1 à l'époque. L'idée était on avait envie de faire une émission où on essayait de faire un peu les médiateurs entre les gens d'une façon bienveillante et constructive. Et on a regardé ce qui se passait, ce qu'on appelle les formats, les concepts un peu partout. Et on a vu plusieurs types d'émissions qui effectivement essayaient de résoudre un peu les problèmes entre les gens, de les apaiser, voilà. Et on a eu l'idée donc de cette émission où il y avait plusieurs émissions un peu partout dans le monde où des gens invitaient d'autres personnes qui savaient pas qui les invitait, bon, pour leur dire quelque chose. Après, nous, ce qu'on a amené, c'est le rideau, c'est toute la mise en scène avec les écrans.
Vous avez essayé de personnaliser.
Les différents cas de figure qu'on pouvait traiter dans l'émission, puisqu'on traite aussi bien des déclarations d'amour, des réconciliations, des retrouvailles de gens qui soit se sont perdus de vue depuis très longtemps, soit se sont jamais rencontrés. Une maman qui a abandonné ses enfants des années avant, ou un frère et une sœur qui se sont jamais, qui ont été séparés à la naissance. Et puis il y a aussi des hommages, des remerciements. Tu as fait quelque chose de merveilleux pour moi et je voulais te mettre à l'honneur et t'en remercier. Et puis des réconciliations. Donc il y a des cas de figure assez différents. La plupart des autres émissions faisaient essentiellement des réconciliations. Et nous, on n'a pas voulu être uniquement dans le conflit géré. On a aussi voulu être dans la déclaration d'amour, dans des choses qui étaient où il n'y avait pas forcément de conflit à la base, mais simplement quelque chose qui n'était pas dit. Voilà. Donc, cette émission, on l'a faite pendant 6 ans sur TF1, avec un gros succès, avec aussi beaucoup de contestations de gens qui aimaient pas, qui trouvaient que ce concept était indécent, ce qu'ils appelaient à tort voyeuriste. C'est pas le concept qui est voyeuriste, c'est les gens qui regardent éventuellement, mais le concept éventuellement est exhibitionniste, mais pas voyeuriste, etc. Mais bon, en tout cas, ça c'est une émission qui a fait beaucoup de bruit, plus que d'autres qu'on a fait dans une sorte de consensus général, même si elle marchait très bien aussi. Et elle s'est arrêtée en 2007 et elle a redémarré par la magie des réseaux sociaux, grâce à la magie des réseaux sociaux en l'an dernier, puisque en fait les réseaux sociaux avaient diffusé nos anciennes émissions pendant toute la période du Covid, etc., que tout d'un coup ça fait ce qu'on appelle un carton, enfin un énorme succès sur Facebook, YouTube, etc. Et donc les chaînes de télévision se sont dit, mais finalement on aurait peut-être intérêt à reprendre cette émission. Et puis c'est C8 qui a été la plus réactive, qui nous a proposé de refaire cette émission avec des nouvelles histoires aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez une vérité, okay. Emmanuel à venir dire à quelqu'un Vous êtes la bienvenue.
Bon, très bien. Je saurai où aller. Bon, donc finalement, un concept assez, on va dire, assez joyeux, même si des fois on peut voir aussi des gens qui pleurent, mais des gens qui se retrouvent. Vous avez finalement, avec votre acolyte Laurent Fontaine, un rôle chacun à jouer, ou est-ce que c'est un peu fort ce que je dis ?
Non, c'est très pertinent. Rôle, si on veut bien donner à ce mot quelque chose de spontané, c'est-à-dire que c'est pas un costume de comédien qu'on endosse. On a dans ce duo, dans ce tandem depuis toujours, dans toutes les émissions qu'on a faites, une vraie complémentarité parce qu'on est très différents, même si on partage, et c'est ça qui est important, les mêmes valeurs et les mêmes principes de vie généraux, mais on est très très différents. Et ça nous permet, dans cette émission notamment, d'avoir vraiment, effectivement, comme vous le dites, des rôles assez différents, très complémentaires et très, je dirais, qui participent à mettre nos invités à la fois en confiance, en sécurité. Alors, les deux rôles, c'est, je dirais, moi, je suis un peu la colonne vertébrale, celui qui tient un peu la baraque, qui tient notamment tout le rituel, tout le déroulé de l'émission, et peut-être un peu le plus formel avec mon côté bordelais, un peu coincé du cul. Et c'est l'image, hein.
Oui, oui.
Et Laurent, lui, il est avec son côté rital, facétieux, un peu, je bouscule...
À faire des blagues.
Mais j'en fais aussi, vous remarquerez que j'en fais aussi, mais...
Et vous ponctuez toujours par quelque chose de très
voilà.
Posé.
Et Laurent, lui, c'est un peu le tout-fou, celui qui bouscule effectivement les conventions, qui va permettre aussi, du coup, de générer certaines confidences ou certains aveux qui n'auraient pas forcément été dits sinon. Donc voilà, et puis alors, s'il va un peu trop loin, ben, je suis là pour remettre un peu le truc sur les rails, etc. Et tout ça se complète très bien. Je pense qu'au final... cette émission, et je sais, ça peut paraître immodeste de le dire, mais cette émission, si elle était animée par une seule personne, quelle qu'elle soit, n'aurait pas cette saveur-là. Et le fait d'être en tandem comme ça, avec ces deux personnalités très différentes, mais quand même très complices, ça lui apporte un petit sel supplémentaire.
Une bonne alchimie.
Une bonne alchimie, exactement.
Lorsque vous étiez... plus jeune, étudiant,
jeune, ou... vous
plus
dire.
Jeune. Que rêviez-vous de faire? Quel métier aviez-vous envie d'exercer?
J'aurais voulu être écrivain. Mm-hmm. J'adore écrire, j'adore lire. Je suis un grand amoureux de la littérature.
Vous avez fait d'ailleurs des études assez brillantes, hein, on peut le dire,
bon,
normal.
J'ai fait des études, voilà, oui, de lettres et de philosophie. Mm-hmm. J'ai effectivement, j'avais ce rêve d'être écrivain et j'avais dans... j'ai toujours quelque part un peu ce rêve-là d'arriver un jour à me consacrer vraiment à l'écriture. Mais je ne vais pas faire le pédant ou le cuistre, mais il y a un passage des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, le grand poète allemand, où le jeune poète lui demande « Mais quand est-ce qu'on sait si on est vraiment un écrivain ? Comment on sait ?» Je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Et Rilke lui écrit « En fait, un écrivain, c'est celui qui ne peut pas faire autre chose que d'écrire. » Et donc, je pense que je ne suis pas un écrivain, parce que...
Vous avez trop de choix.
C'est pas que j'ai trop de choix, mais j'ai jamais eu le courage... de me consacrer uniquement à ça. Je pense qu'il faut parler de courage et pas uniquement de volonté ou de détermination. Ouais, par exemple, j'ai un frère musicien que j'admire beaucoup.
Qui joue quel instrument, lui ?
Qui est batteur de jazz, qui est un des meilleurs batteurs français de jazz. Et lui, dès l'adolescence, il savait qu'il voulait faire ça, il n'a jamais dérogé à cette... Moi, je me suis laissé aller à plein d'envies, à plein d'opportunités, à plein de choses que j'avais envie de faire aussi. Et je pense que pour être un vrai écrivain, il faut savoir se mettre tous les matins à sa table, écrire, en baver. Voilà, moi, je le fais, mais de façon plus versatile et plus velléitaire. Et du coup, je suis jamais tout à fait content de ce que je fais. Je parle des romans que j'ai sur sur mon métier, des ouvrages que j'ai sur mon métier depuis longtemps. Voilà, j'ai publié des livres avec Laurent ou avec d'autres, mais qui n'étaient pas des livres de littérature, qui étaient des essais ou des livres journalistiques ou des livres amusants, voilà. Donc, un jour peut-être, un jour peut-être.
Il ne faut pas désespérer. Et après, au niveau des écrivains, des gens que les auteurs vous aimez, vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Oui, j'en aime beaucoup, mais... Non, pas du tout. J'en aime beaucoup, mais j'ai deux passions. Je parle dans des auteurs contemporains, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire de la littérature non plus, mais dans les auteurs contemporains, dont une est disparue et l'autre est toujours vivant. J'ai une passion particulière pour Marguerite Duras, à laquelle j'ai d'ailleurs consacré mon mémoire de maîtrise de littérature, de lettres, et puis un écrivain vivant qui est Philippe Djian, qui est pour moi le meilleur écrivain français vivant, parce que c'est quelqu'un qui sait, comme personne, manier la phrase, créer des images en faisant s'entrechoquer quelques mots, donner une musique. D'ailleurs, c'est un passionné de musique. Mmh. Voilà.
Il travaille pour Stéphane Escher.
Mmh. C'est pas tout à fait anodin, mais il adore la musique. Il en parle beaucoup dans ses livres. Voilà. Depuis son premier livre, j'ai une passion, et dès qu'un géant sort, je me précipite dessus. Alors, j'aime un peu moins les derniers, peut-être, mais voilà, ça reste quand même mon écrivain préféré d'aujourd'hui.
Mmh. Et alors, vous ne vous arrêtez pas seulement à la littérature, on va dire. Vous aimez aussi la musique, notamment la musique baroque.
Oui.
Alors, c'est peut-être pas tout à fait commun, ça. Tout le monde n'affectionne pas toujours cette musique-là, si ?
Non, peut-être. Je pense que c'est une musique qui demande une certaine éducation, un apprentissage, voilà. C'est pas une musique facile, mais il y en a d'autres, hein, et auxquelles moi je suis totalement réfractaire, qui sont des musiques exigeantes, et voilà. Moi, j'ai eu la chance de baigner un peu là-dedans, parce que j'avais un père passionné de musique classique et de pas mal de genres différents, mais entre autres de musique baroque, et qui m'a amené notamment tous les ans au Festival de Saintes, qui est un des plus beaux festivals de musique baroque en France. Et voilà, et j'ai développé une passion particulière, parce que dans la musique baroque, il y a à la fois la musique, et il y a souvent des voix, et il y a notamment ces voix qu'on appelle les voix de haute contre ou de contre-ténor, qui à l'époque étaient chantées par des castrats, hein, puisque on avait cette pratique barbare de castrer certains jeunes hommes, mais qui leur donnait évidemment une voix particulièrement claire et aiguë, une capacité à aller dans les aigus que un mâle ne peut pas atteindre, sauf avec des techniques particulières qu'on développait ensuite. À partir du moment où on a arrêté de castrer, ce qui est plutôt une bonne chose, les hommes, eh bien, on a développé ces techniques de contre-ténor, qui travaillent une voix un peu de fossé, mais enfin, c'est une technique très particulière, avec une tessiture que tout le monde n'a pas, évidemment, au départ. Et ça donne des voix qui me touchent particulièrement, qui me font vraiment, qui m'émeuvent terriblement depuis toujours, qui sont les voix de contre-ténor ou à l'époque de castrat, même on a quelques enregistrements encore qui existent, puisque ça a existé jusqu'à la fin du 19e siècle. On n'est ni dans la voix de femme, ni dans la voix d'homme, on est quelque part dans une voix d'ange, et ça me touche particulièrement. Et c'est aussi et surtout ce que je cherchais dans la musique baroque.
Mmh. Bon, mais écoutez, on apprend plein de choses. Comment est-ce qu'on arrive à trouver du temps finalement avec toutes ces occupations là, parce que tous les métiers que vous pratiquez, que vous exercez, vos passions, etc., est-ce que ça se minute? C'est une organisation qui est un peu pas rigide, mais une grande organisation que vous avez pour tout faire?
Non, en fait non, je suis un comme pas mal d'hyperactifs, un paresseux qui combat contre son défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que j'aime plus en réalité que d'être au bord de l'eau en train de regarder les vagues et les scintillements du soleil et la lumière qui change sur les flots, ou un feu de cheminée, ou un livre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Prendre un livre et être là, effectivement, m'enfuir dans l'univers du livre. Mais en même temps, je ne vis que de projets et j'ai toujours besoin de nouvelles choses. Je pense que j'ai une peur terrible de la mort et du temps qui passe. Donc j'essaie de fuir ça avec une suractivité ou une hyperactivité. Voilà. Donc je ne suis pas très organisé en réalité, où j'ai mon organisation à moi. J'ai souvent l'impression, j'avais une amie qui me disait ça l'autre jour, j'ai trouvé l'image très très belle, enfin très très vraie, comme un ordinateur où vous avez 15 pages ouvertes sur le 15 fichiers ouverts sur l'ordinateur en même temps, et puis vous passez de l'un à l'autre. J'ai cette capacité là effectivement de sauter d'un sujet à l'autre dans au fil de ma journée, parce que j'ai la chance, le privilège énorme de ne faire depuis des années et des années que des choses que j'aime. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours drôle, et qu'il n'y a pas du stress, des emmerdements, des trucs qui se cassent la figure et des échecs.
Mais c'est un luxe de faire ce qu'on aime quand même.
Mais c'est un énorme luxe de se lever le matin en se disant ce que je vais faire aujourd'hui, j'aime le faire. Voilà, j'aime le faire, même si ça ne va pas être facile, j'aime le faire. Et j'ai d'ailleurs essayé toujours d'élever mes enfants dans cette religion-là. J'aurais toujours dit, mais je ne suis pas là pour me réaliser au travers de votre réussite à vous. Donc, je ne vous rêve ni chirurgien, ni avocat international, ni banquier d'affaires, ou je ne sais quoi encore. Faites strictement ce que vous avez envie de faire, mais soyez content de vous lever le matin pour aller faire ce que vous avez à faire. Mmh. Pour l'instant, c'est plus ou moins réussi, mais ils sont encore jeunes, et bon, mais je pense que ils sont quand même dans cette logique-là. Voilà, donc c'est un bonheur énorme, c'est un luxe énorme, vous le disiez, et du coup, bah, c'est pas si compliqué que ça, de passer d'un sujet de l'hôtellerie à un sujet de télé, ou un sujet de production de théâtre, ou un sujet effectivement de refaire des maisons, puisque c'est aussi une de mes passions, et que, à part écrivain, j'aurais aussi adoré être architecte d'intérieur.
Dans une prochaine vie.
Dans une prochaine vie, oui.
Bon, donc des goûts assez éclectiques, on peut le voir. Des études de lettres brillantes, même si vous dites oui, des études de lettres, avec Normale Sup, je répète. Vous êtes aussi pas mal entouré. Vous parliez de vos enfants, vous en avez quatre.
Oui, quatre garçons.
C'est pas rien.
J'ai pas trouvé la recette pour faire la fille. Mais oui, quatre garçons qui sont âgés de 33 à 15 ans, 33, 30, 22 et 15. Mmh. Quatre beaux mecs, quatre grands mecs qui sont ma joie et ma fierté, comme je dis souvent, ma plus belle production, et avec qui j'ai des relations très apaisées, très complices. Rien n'est parfait et je suis pas du tout le père idéal, loin s'en faut, mais j'aime les relations qu'on a. On s'entend super bien. Je suppose que j'ai fait plein d'erreurs et j'ai plein de carences et tout ça, mais en tout cas, j'ai essayé de toujours leur montrer que je les aimais. Mmh. J'ai un peu manqué de ça, moi, avec mon propre père, qui m'aimait beaucoup, mais qui ne savait pas le montrer et le dire.
Qui était psychanalyste.
Et voilà, et donc, bon, ouais, ces quatre garçons, c'est vraiment ma plus grande fierté. J'essaie de les voir beaucoup. Alors, jusqu'à cette année, puisque moi je vis au Cap Ferret, et depuis maintenant 6 ans, mais eux vivent à Paris, mais jusqu'à cette année, je remontais toutes les semaines pour les voir, et on faisait tous les jeudis soirs le dîner de papa. Ils venaient qui voulaient, mais ils savaient qu'ils étaient invités tous les jeudis soirs à la maison ou au resto, et qu'ils pouvaient passer un coup de fil en disant bah, je viens ou je viens pas, j'ai un autre truc, voilà. Et avec maintenant, il y a en plus les compagnes et petites amies qui se joignent à ça, et c'est sympa, on échange, ça permet de maintenir un lien permanent, Et c'est une des choses qui me tiennent beaucoup à cœur et qui continue de m'enrichir chaque semaine. Oui.
Et alors, vous avez aussi une autre personne qui compte pour vous, qui est votre maman.
Oui.
Qui est une dame, qui a un certain âge, mais qui est encore en forme.
Oui, elle a. Oh, bon, on peut dire son âge, parce qu'elle a pas cette coquetterie, elle me le pardonnera. Elle a 88 ans cette année, elle a eu 88 ans. Et elle est effectivement, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, et je touche du bois pour ça, en pleine forme. Vous disiez qu'elle compte beaucoup. Oui, elle compte beaucoup. Et elle compte d'autant plus que je l'ai beaucoup oubliée à une époque de ma vie, comme on est souvent malheureusement un peu oublieux des parents quand on est en pleine construction de sa vie d'adulte et de sa vie professionnelle, et que qu'on pense on devient égoïste, ou peut-être que c'est même pas de l'égoïsme, peut-être que c'est normal et nécessaire, et puis on a ses propres enfants et on se s'oriente plus vers les enfants que vers les parents. Et en fait, j'ai pris conscience de ça assez tardivement, mais il y a quand même une douzaine d'années. En fait, j'ai perdu mon père brutalement, et on était fâchés depuis 6 ans, je ne lui avais pas parlé depuis 6 ans. Et c'est terrible, en fait, de perdre quelqu'un avec qui on est fâché, sans avoir pu s'expliquer, et en se disant qu'on a toujours le regret de ne pas avoir fait le geste. Et l'émission que je fais n'est pas anodine non plus de ce point de vue-là. J'ai jamais, sur le moment, j'ai pas du tout fait le rapprochement, mais il est décédé 3 ans avant qu'on crée l'émission avec Laurent, et je pense que quelque part, cette volonté de d'aider les gens à se parler. Après, on fait pas de miracle, on résout pas forcément tous les problèmes, bien entendu. Ouais,
faciliter les choses.
Mais on essaie de faciliter, voilà. Et donc, j'ai toujours eu le regret de ne pas avoir pu parler à mon père avant son décès. Et je me dis depuis un certain nombre d'années que je rattraperai pas le temps perdu avec ma mère, mais qu'en tout cas, je vais essayer de profiter au maximum d'elle tant qu'elle est là. Et de la faire un peu profiter de moi aussi. Donc voilà, on a une relation très complice tous les deux, finalement assez sur le tard. On en a eu une quand j'étais enfant et adolescent, évidemment. C'était une mère très, très aimante, très présente, un peu bousculée parfois par la vie. Et puis il y a eu cette grande parenthèse où évidemment on s'aimait, on se voyait, on se disait qu'on s'aimait, mais on se voyait 5 ou 10 fois par an, et le reste du temps, c'était très ténu. Et voilà, là, je m'attache depuis quelques années à ce que ce lien, il soit fort, il soit, je l'appelle tous les jours, par exemple. Je suis un monsieur de 60 ans qui appelle sa maman tous les jours.
Bon, écoutez, je pense qu'elle en est ravie. Vous êtes aussi donc engagé pour des choses qui vous tiennent à cœur, vous le disiez, engagé pour l'ARFLA. Est-ce que j'ai bien prononcé ?
Vous avez très bien prononcé, on peut dire. Alors, ARFLA ou ARSLA. C'est l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, qui est un nom un peu barbare, une maladie qu'on connaît mieux sous le nom de maladie de Charcot. Qui est une maladie neurodégénérative, une maladie orpheline, comme on dit, c'est-à-dire qu'une maladie qui est un peu laissée pour compte par la recherche,
qui n'a pas encore trouvé de solution.
Qui n'a pas trouvé de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun remède. C'est une maladie qui vous fait perdre petit à petit l'usage de vos muscles, les membres, évidemment, supérieurs, inférieurs, et puis petit à petit aussi les muscles de la parole, qui commandent évidemment la glotte, la langue, etc., et qui vous empêche d'articuler, et puis au final les muscles respiratoires, donc vous mourrez asphyxié de ne plus pouvoir respirer. C'est une maladie qui a été qualifiée par les Nations Unies de la maladie la plus cruelle qui soit aujourd'hui, bon, même s'il n'y a pas de maladie pas cruelle, mais celle-là l'est particulièrement. Donc on n'a pas de traitement aujourd'hui, on a même très peu de remèdes pour essayer d'atténuer un peu l'évolution de la maladie, de la ralentir. C'est une maladie dont l'espérance de vie pour ceux qui en sont atteints est de 3 à 5 ans uniquement, c'est très peu. Et c'est, je dirais, c'est inéluctable, c'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, qui sont évidemment souhaitable, mais à quelques exceptions près, on vit pas au-delà de cette échéance-là. On peut même partir beaucoup plus vite que ça. Et donc, c'est une maladie qui n'est pas beaucoup aidée par la recherche, même s'il y a des gens formidables, et il faut les saluer, qui travaillent dessus tous les jours d'arrache-pied et qui font des progrès. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont donnés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les patients meurent très vite, on n'a pas le temps de tester énormément de protocoles sur eux. Il faut à chaque fois redémarrer un peu à zéro. Du coup, les laboratoires ne trouvent pas ça très intéressant, très rentable, donc ils n'investissent pas. Vous savez que malheureusement, la santé, c'est aussi une affaire d'argent. On l'a vu pendant le Covid. C'est un cercle vicieux, parce qu'évidemment, comme on n'investit pas beaucoup sur la recherche, on ne trouve pas de remède. On ne trouve pas de remède, donc les gens continuent à mourir vite. Et ils continuent à mourir vite, donc on ne s'intéresse pas à eux. Donc, il y a heureusement plein de gens, quand même, qui s'y intéressent. Et dont cette association, l'ARSLA, qui fait un travail fabuleux en France et en Europe. Bon, il y a d'autres associations au niveau européen et au niveau international aussi. Et pourquoi j'ai été amené à devenir ambassadeur de l'ARSLA, c'est parce qu'en fait, j'ai eu ces dernières années plusieurs proches, plus ou moins proches, mais personnes que je connaissais qui ont été atteintes par cette maladie, deux qui en sont décédés assez vite, dont mon ami Jean-Yves Lafesse, que vos auditeurs connaissent fort certainement, lui qui était si drôle et si facétieux, il a été emporté très vite par cette maladie-là. Et puis un autre proche que certains de vos auditeurs reconnaissent certainement aussi de nom, puisque c'est un médecin bordelais très connu qui s'appelle le docteur Antoine Meynier, qui est toujours vivant bien sûr et heureusement, mais qui a abandonné l'exercice de la médecine, mais qui était un généraliste extrêmement renommé, parce que c'était le genre de médecin dont on rêve, qui est toujours là pour quelle que soit l'heure du jour, quel que soit le jour de la semaine, qui est toujours là pour vous répondre, pour vous rassurer, pour vous ouvrir son cabinet ou la porte de chez lui. Et Antoine, qui est un ami d'enfance, m'a annoncé qu'il était diagnostiqué de la maladie de Charcot il y a 18 mois. Et puis, peu après, j'ai eu une autre amie, Lorraine, qui elle a 36 ans. Antoine, lui, il en a 66 ou 67. C'est très tôt, c'est très jeune pour être gravement malade. Mais Lorraine, elle en a 36. Elle a été diagnostiquée il y a un an. C'est une jeune femme que je connaissais, qui avait travaillé avec moi, notamment à mon hôtel. Et elle m'a appelé il y a une petite année en me disant, voilà, j'ai besoin de vous, à l'époque, quand vous voyez. Moi, je pensais qu'elle voulait me demander du boulot. Donc, je vais à ce rendez-vous plutôt content, parce que c'est une collaboratrice que j'estimais beaucoup. Et donc, je pensais qu'elle voulait revenir travailler avec nous. Et puis, elle me dit, bah non, pas du tout. En fait, voilà, j'ai besoin de vous parce que j'ai été diagnostiqué de Charcot et je veux me battre. Je veux me battre tous les jours. Je veux me battre pour, pas que pour moi, pour les autres, pour la recherche, le temps que j'ai à vivre, et j'espère que ça sera beaucoup de temps, mais le temps que j'ai à vivre, je veux le consacrer maintenant à ce combat. C'est ce qui va me faire vivre, c'est ce qui va m'animer tous les jours. Et j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu médiatisé pour m'aider à faire parler de ça, et la seule personne un peu médiatique que je connais, c'est vous, donc je vous appelle. Et ça venait après, effectivement, Antoine, qui m'avait pas du tout sollicité, lui, pour l'aider, mais bon, donc je savais qu'il avait ça. Et là, je me suis dit, bon, c'est trop, il n'y a pas de hasard, quoi. Il y a un moment où c'est un appel, quelque part, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Et puis, plus je me suis renseigné, plus j'ai découvert cette injustice dont je vous parlais, c'est-à-dire que c'est ce cercle vicieux, c'est pas, il faut le briser, il faut faire quelque chose. Donc voilà, à mon modeste niveau, mais de toutes mes forces quand même, avec Lorraine notamment, avec Antoine qui est malheureusement hospitalisé depuis quelques jours parce qu'il a attrapé le Covid et que c'est une maladie évidemment qui diminue vos résistances immunitaires, et voilà, ça n'arrange pas les choses, et j'espère que son état de santé va s'améliorer très vite. Mais avec Lorraine aussi, on se bagarre tous les jours, voilà, chacun comme on peut, pour essayer de ramener des fonds pour la recherche. Et là, par exemple, on part faire un raid en Laponie fin janvier, un raid sportif où on va en baver quand même un peu. Mais bon, Lorraine, elle a la, elle a pour l'instant simplement une main qui est diminuée, les muscles de sa main gauche qui réagissent de moins en moins, mais pour le reste elle est heureusement tout à fait valide et en forme et ça va durer, on y croit. Donc on va partir tous les deux parmi, et puis on a
tous les deux, vous parlez de
Lorraine et Lorraine moi, faire ce raid. Et puis du coup, on a d'autres personnes qui sont jointes à nous, des proches, etc. Donc on part finalement une équipe de 6, puis encore 4 autres qui se sont encore rajoutés. Et tout ça, et on va être sponsorisé donc, par des entreprises. Et d'ailleurs, il y a encore de la place pour venir nous sponsoriser et nous soutenir. Et évidemment, tout l'argent qu'on récolte va à la recherche. On en est pour l'instant à 75 000 euros déjà, ce qui est pas mal du tout. C'était notre objectif, 75 000 euros. Pourquoi ? Parce que, Emmanuel, ça correspond au coût d'un an de recherche. Le coût d'un chercheur pendant un an, c'est à peu près 75 000 euros. Donc, c'était l'objectif qu'on s'est fixé. Mais ce n'est pas parce qu'on a atteint l'objectif qu'il ne faut pas en vouloir un peu plus. Mm-hmm. Donc, on est gourmand. Et si vous qui nous écoutez, si vous voulez, j'en profite, nous aider, vous allez sur mon compte Instagram, il s'appelle Pascal Bataille, tout court. Vous allez sur le site de la RSLA, ou encore sur le compte de Lorraine qui s'appelle, ça ne s'invente pas, La vie est belle, SLA. SLA comme sclérose latérale amyotrophique, mais SLA aussi la vie, et c'est là la vie, parce qu'elle est belle. C'est elle qui a choisi ce nom, évidemment, donc ça vous dit tout sur la personnalité de cette jeune femme solaire et absolument rayonnante. Donc voilà, si vous voulez nous aider, on peut encore nous aider un petit peu. Et quand je dis nous, c'est évidemment l'association. Bon, il y a la Laponie, mais il y aura. Enfin, c'est une mission qui va durer bien au-delà de la Laponie, évidemment. Mais voilà, on sort du week-end du Téléthon. Le Téléthon, c'est super bien. Le site d'action, c'est super bien. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre une chaîne de télévision de faire un de ces jours un charcoton. Je sais pas si je peux utiliser ce néologisme qui est pas très joli, mais bon. Qu'on ait aussi un peu de plus de médiatisation pour cette parce que je suis convaincu, et quand je dis j'y connais rien, je suis un pauvre ignare, mais j'écoute les chercheurs avec qui je parle, j'écoute les gens de l'association qui évidemment eux sont beaucoup plus au courant et pertinents que moi sur le sujet. C'est évident qu'on va trouver un jour un remède, c'est évident. Mais est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Ça, on ne le sait pas. Et plus il y aura de chercheurs qui bosseront, parce qu'il y a des progrès qui sont faits. Là, on vient d'autoriser en France une nouvelle molécule qui permet, on le sait déjà par les essais aux États-Unis et en Israël, de ralentir certains symptômes et de ralentir l'évolution de la maladie. Et quand on vous dit que vous avez 3 à 5 ans à vivre, eh bien, ralentir ne serait-ce que de quelques mois ou une année, eh bien, c'est formidable. Voilà, donc il y a des progrès qui sont faits et le sida, on a trouvé des choses et sur plein d'autres maladies, on a trouvé des choses et je suis persuadé qu'on va trouver aussi, mais il faut des sous. Ouais. C'est trivial, mais c'est comme ça.
Et oui. À bon entendeur, salut du coup.
Voilà, je voulais pas plomber l'atmosphère non plus.
Non, mais en tout cas,
mais on rigole beaucoup avec Lorraine, vous savez. Regardez-nous sur Instagram, on se marre beaucoup.
Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Écoutez, de revenir souvent à votre micro.
Non, mais
pour la suite, moi, vous savez, je suis un moment de ma vie, en fait, où je pense que j'ai rarement été aussi heureux et équilibré. Mais pourtant, il y a plein de choses dans ma vie qui ne sont pas forcément d'équerre. Je suis célibataire, je me suis séparé il n'y a pas longtemps. J'ai mes proches qui sont ces deux proches que j'aime infiniment qui sont malades et dont l'avenir n'est pas garanti, loin s'en faut, etc. Mais j'ai l'impression d'être à 63 ans aujourd'hui, enfin à peu près en cohérence avec moi-même. Et donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue comme ça.
Bon, écoutez, c'est entendu, c'est dit que ça continue. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme on peut dire.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Et puis, merci d'avoir été mon invité.
Merci à vous. À bientôt, j'espère.
Voilà, à vous aussi. Au revoir.